Bonjour Paolo.
Bonjour Daniel.
Voilà, je suis très contente de vous inviter à mon émission Traces. Donc je veux laisser des traces des musiciens belges et autres, pas nécessairement belges. Et voilà, je ne vais pas trop parler parce que j'ai beaucoup de choses à vous faire écouter. Mais quand même une ou deux questions. Paolo, vous avez commencé à jouer très jeune. Vous m'avez dit que dans votre famille, personne n'était musicien. C'est vraiment vous qui avez décidé de faire de la musique.
Oui, tout à fait. J'ai été, dès mon plus jeune âge, fasciné par la musique. Alors, c'est vrai que dans ma famille, ni mes parents, ni d'autres membres de la famille ne jouaient d'un instrument, mais tout le monde aimait la musique. Donc, j'ai écouté de la musique très tôt dans ma vie. Mais pour des raisons mystérieuses, parce que rien dans mon contexte familial ne permettait de croire que ça allait arriver, ben j'ai eu vraiment envie d'en faire, et donc j'ai scié mes parents pour avoir une guitare quand j'avais 12 ans.
Mais avant ça, à quel genre de musique à l'époque vous écoutiez? C'était du rock ou c'était dans les années 60, 70?
J'écoutais vraiment de tout. Bah, je suis né en 49, donc ma première guitare, je l'ai eue pour mes 12 ans en 61. Mais avant ça, il faut dire que j'ai eu la chance, quand j'étais à l'école primaire, d'avoir un excellent professeur de musique, puisqu'à l'époque, il y avait encore des cours de musique à l'école primaire, toutes les semaines. Et j'ai eu la chance d'avoir un monsieur extraordinaire que j'ai revu par la suite, quand je suis moi-même devenu professeur, monsieur Depot, qui nous apprenait le solfège, mais qui nous faisait aussi chanter. Il avait organisé une chorale à l'école, et il était très ouvert à tous les styles de musique, et je l'étais donc moi-même aussi. J'écoutais aussi bien de la musique classique, de la variété, du rock. J'étais fan d'Elvis Presley, mais aussi d'Yves Montand, de Louis Armstrong. J'aimais beaucoup chanter, et c'est dans cette chorale à l'école que j'ai commencé vraiment à attraper le virus de la musique. Et par la suite, ben, j'ai eu envie de m'accompagner à la guitare. Et quand j'ai commencé à jouer de la guitare, c'était essentiellement pour m'accompagner. Et c'est resté comme ça pendant toute mon adolescence. Par la suite, j'ai découvert aussi, évidemment, c'était logique à mon âge, à l'époque, j'ai découvert Bob Dylan, Donovan, etc., un peu toute la vague folk, protestant des années 60, j'ai beaucoup chanté ça. Puis j'ai découvert aussi le jazz vers 13-14 ans, et voilà.
Et vous viviez en Belgique ou ça, en Belgique ou...
Oui, je vivais à Bruxelles. En fait, je suis né en Italie, et je suis arrivé à Bruxelles avec mes parents quand j'avais 6 ans.
Ouais. Donc voilà, je vais faire une petite chronologie. Donc je ne sais pas passer vos premiers morceaux puisque c'était du rock, vous n'avez pas d'enregistrement.
Oui, c'est-à-dire que à l'époque où je jouais dans quelques groupes de rock assez connus en Belgique, dans les années 69, 70, 71, comme Kleptomania par exemple. Mais à l'époque, contrairement à maintenant, faire un disque c'était toute une opération. C'était pas comme maintenant où n'importe qui s'achète un ordinateur, un Pro Tools et peut faire un disque. Dans sa cave ou dans son garage. À l'époque, faire un disque, c'était encore toute une opérette. Il fallait aller voir des firmes de disques avec des directeurs artistiques qui ne connaissaient pas cette musique en plus, parce que ici en Belgique, ils étaient encore assez rétrogrades. Et donc, voilà, pendant cette période-là, je n'ai malheureusement pas pu enregistrer de disque. Heureusement, ça a changé par la suite.
Oui. Donc votre premier disque, vous connaissez le titre, le premier disque?
Alors le premier disque que j'ai enregistré sous mon nom s'appelait Vento, et c'était en 78, c'était un 33 tours, avec notamment Christine Schaller, Félix Simten, Freddy de Ronde dans certains morceaux, Jean-Louis Racinfos dans d'autres morceaux, et ça a été le premier enregistrement sous mon nom. Qui évidemment n'existe plus, enfin il existe en vinyle, mais il n'a jamais été réédité en CD. En fait, à cette époque-là, j'ai réalisé entre 78 et 83 trois albums, donc vinyle sous mon nom. Le deuxième s'appelait Funny Ways. C'était un disque en trio avec Ernst Beer et Rudi Schröder, deux musiciens allemands avec qui j'ai beaucoup tourné à l'époque. Et le dernier vinyle était en 83 pour la firme LDH, qui était l'ancêtre des disques Igloo. Et ça, c'était des formations variables. Il y avait Charles Loos au piano, Jan de Haas à la batterie, Steve Huben au saxophone et à la flûte. Il y avait John Rocco aussi dans le même disque, Nicolas Fisman dans certains morceaux à la basse électrique et Ricardo Delfra à la contrebasse dans d'autres. Et après ça, a commencé l'ère du CD, et donc tous les extraits que vous allez passer à votre émission sont extraits du CD que j'ai réalisé.
Après,
ouais.
Ouais. Et actuellement, vous aimez beaucoup, justement, vous êtes assez ouvert, vous avez une grande ouverture par rapport aux musiques du monde, etc. Vous aimez l'Afrique, vous aimez l'Inde, la musique indienne, la musique... Je sais que vous avez une très grande ouverture et que vous avez enregistré dernièrement avec des Africains, Gnawa,
oui,
c'est
voilà,
pas
en
Maroc.
Voilà, j'ai eu le bonheur de rencontrer en 2000 un grand musicien marocain qui s'appelle Majid Bekas et qui pratique la musique Gnawa, qui est en fait une musique marocaine, mais qui est issue plutôt d'une tradition africaine qui remonte au Mali. Et en fait, il y a des similitudes avec le jazz, avec le blues plutôt, je dirais, parce que il faut savoir que au Moyen-Âge, jusque pratiquement il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être deux siècles de cela, les Noirs au Maroc étaient les esclaves des Arabes. Et le mot même Gnawa vient de Ghana, c'est la même racine. Et tout comme ça s'est passé aux États-Unis avec le blues, la musique que les Noirs ont inventée à partir de leurs racines africaines mélangées avec ce qu'ils entendaient autour d'eux, eh bien, ces Noirs marocains ont, à partir de leurs racines qui venaient vraiment d'Afrique de l'Ouest, mais des pays d'Afrique noire, Ghana, Guinée, Mali, etc., au contact de la musique arabe, ont formé cette nouvelle tradition qu'on appelle la musique Gnawa, qui a aussi une composante religieuse qui est liée aux pratiques ancestrales animistes et qui s'est aussi, au fil du temps, qui s'est en quelque sorte mélangée avec la religion musulmane, ce qui fait que maintenant c'est une composante de la culture marocaine. Et le point de contact qu'il y a entre cette musique-là et mon vécu en tant que musicien de jazz, c'est l'improvisation, et c'est aussi le fait que les rythmes sont typiquement des rythmes plutôt d'Afrique noire, et tout nous ramène finalement à la zone, on va dire, subsaharienne, c'est-à-dire le Sahel, le Mali, le Ghana, etc., qui est aussi la source du jazz et du blues, puisque les Noirs qui ont été déportés en Amérique pour leur malheur venaient presque tous de cette région-là. Et donc il y a vraiment un patrimoine commun entre le jazz et cette musique Gnawa.
Ouais, c'est bien la preuve que la musique, c'est une catharsis et que les peuples en souffrance s'expriment dans l'art. Donc oui. Le blues, le jazz, tout ça, c'est oui. Toutes ces musiques sont vraiment liées à l'être humain, à la souffrance. Il n'y a pas que ça, mais
oui,
mais je veux dire quand même, c'est l'esclavage.
L'esclavage, mais c'est aussi, je pense, la célébration.
C'est la croyance.
La croyance, c'est comme vous le disiez, la catharsis, c'est-à-dire que la musique, c'est quelque chose qui nous permet, même si on n'a rien, même si on est nu comme un ver sur terre, on peut toujours faire de la musique. Et donc, comme vous le disiez très bien, c'est une catharsis, c'est une manière de se libérer l'âme, faute de pouvoir être complètement libre.
Mmh. Donc, nous allons écouter maintenant...
Parce que, en fait, je pense que ce phénomène de racine au niveau de la musique, c'est ce qu'on trouve dans l'histoire de l'humanité aussi, puisque tous les chercheurs s'accordent à dire que l'homme provient de l'Afrique, et que pour des raisons qu'on n'a peut-être pas encore très bien compris, en fait, la race humaine est apparue en Afrique, elle a essaimé dans le monde à partir de là. Et donc, c'est une idée assez exaltante de savoir que la musique a suivi le même chemin, quelque part. Après, évidemment, d'autres, au fil des millénaires, les peuples se sont adaptés dans chaque partie du monde, et certains ont inventé l'alphabet, d'autres ont inventé l'art, d'autres peut-être les mathématiques. Mais c'est assez stimulant de savoir que tout ça vient d'une seule et même racine, d'une terre, quoi.
Communication. C'est un besoin de communication entre les peuplades dans la forêt. J'imagine, maintenant, je pense à la forêt, l'Amazonie.
Mais ça n'a pas changé.
Et la musique sert justement de
trait d'union.
De trait d'union.
Et ça n'a pas changé, parce que malgré les révolutions que l'humanité a connues, je pense que la fonction de la musique est restée la même. La musique, quelque part, est son propre moyen de communication. Et quand on voit, par exemple, je prendrai un exemple que chacun peut constater, c'est que on parle par exemple de la musique classique européenne. Alors, quelqu'un qui n'est pas au courant pourrait se dire, voilà, la musique classique européenne, c'est une tradition savante, et les Européens la jouent, c'est leur musique savante à eux. Alors qu'en fait, cette musique, depuis longtemps, s'est exporté, et maintenant il y a énormément de musiciens non européens. Je pense notamment à des gens venus d'Extrême-Orient, de Japon, de Corée, de Chine. On en voit régulièrement dans les concours internationaux, comme le concours Reine Elisabeth, et on voit des gens qui sont issus d'une culture en principe tout à fait différente de la nôtre, et qui jouent magnifiquement Mozart, Beethoven, Bach.
Oui, mais là, c'est justement Bach, c'est le clavier tempéré. Dans la musique africaine, toutes ces musiques, il n'y a pas de. Les gammes sont différentes. Je veux dire, les espaces entre les notes sont.
Oui, bien sûr, bien sûr. L'exemple que je citais n'était pas tellement un exemple qui concernait la musique au sens littéral du terme.
Oui, non, mais moi, ça me fait
penser
à ça. Mais
c'était un exemple du fait que la musique, de toute façon, finit toujours par se communiquer et par aller sensibiliser et fertiliser des cultures autres que sa culture d'origine. C'est ça. Et c'est peut-être le seul art qui permet ça à ce point-là et aussi facilement.
Trait d'union, vous disiez tout à l'heure.
Voilà, exactement.
Justement, c'est. Oui.
Et vous parliez de communication, c'est exactement ça, parce que la musique est son propre moyen de communication. Il y a par exemple, pour ce qui est du jazz, je me souviens il y a quelques années avoir loué à la médiathèque une série de disques qui était passionnante et qui était consacrée à l'histoire du jazz dans le monde dans les années 20. Et donc les années 20, c'est vraiment les tout débuts du jazz. Eh bien, on se rend compte que dans les années 20, donc juste après la Première Guerre mondiale, eh bien, il y avait des orchestres de jazz dans le monde entier. Il y en avait non seulement en Amérique et en Europe, il y en avait en Chine, il y en avait en Amérique du Sud, il y en avait en Russie, il y en avait absolument partout. Et même maintenant, à notre époque, on se fait l'illusion que la communication est hyper rapide avec Internet, etc. Mais elle l'était tout autant à l'époque. Et à l'époque, les disques aussi circulaient, les musiciens circulaient beaucoup, et donc dès qu'une musique est diffusée, eh bien elle arrive partout où elle doit aller. Et ça, je trouve ça magnifique.
C'est presque un miracle.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Donc je vais continuer à vous faire écouter, faire découvrir Paolo Radoni, qui est un des musiciens qui est le plus, qui existe depuis tellement longtemps déjà, et que, en tant que musicien, donc c'est déjà... déjà chapeau, je vous dis, je tire mon chapeau, parce que être artiste, ça, c'est tout un monde qu'on n'imagine pas, quoi. Il faut tenir, il faut continuer, il faut arriver à en vivre, il faut... Et bon, ben, je veux vous féliciter.
Merci beaucoup, Danielle.
Et je suis très heureuse que...
Je suis heureux de partager ça avec vous et avec vos auditeurs.
Et merci d'exister.
Oh là, à ce moment-là.
Ah non, oui, non. Merci beaucoup. Est-ce qu'il ne veut pas s'arrêter ? Notre culture, là. Ils vont parler un peu de ça. Gla-gla-gla ! Est-ce que ça fonctionne ? Je ne vois pas.
Allô ?
Ouais, ben c'est bon, ça fonctionne.
Tu n'as pas ton casque ?
Non, mais je le vois. Il y a une petite ligne.
Ouais.
Ouais. Donc, voilà. Il y a quand même un problème par rapport à l'art en général, la culture. Je trouve que, enfin, on trouve que la Belgique, l'Europe, le monde entier n'est basé que sur, tout le monde le sait, mais il faut peut-être le repréciser, sur l'argent, le pouvoir, et toujours la même histoire, quoi. L'art passe, alors que ça devrait être primordial dans la vie de l'être humain, l'art passe toujours derrière et on ne se rend pas compte que l'art est partout, fait partie de la vie de tous les jours. La musique, elle est partout. La peinture, elle est partout. Enfin, je veux dire, on n'a pas conscience. Les artistes sont un peu... Ils n'ont pas la place qu'ils devraient avoir. Donc, un avocat, où ils gagnent bien leur vie, tout ça. Et un artiste, il y en a...
Ceci dit, il y a certains artistes qui gagnent beaucoup plus
beaucoup,
que certains
beaucoup,
avocats.
Mais oui, oui, mais alors c'est une musique il y a de la bonne musique commerciale, je veux dire, c'est pas ça.
Non seulement, mais il y a aussi des artistes classiques, je pense à des grands virtuoses, des concertistes ou des chanteurs d'opéra qui ont un succès vraiment planétaire. Maintenant, ce qu'il y a de vrai, c'est que il est difficile de s'affirmer en tant qu'artiste quand on pratique un art qui est un peu marginal. Ça, c'est vrai.
Ouais.
Ça, c'est très vrai. Et c'est vrai partout, que ce soit en Europe, en Amérique ou partout. Et il faut avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut avoir de la détermination et être capable de durer pour faire entendre sa voix.
Ouais. Il faut vraiment se battre quelque part. C'est presque un combat pour exister,
combat.
Quoi. Simplement, simplement le fait d'exister et d'en vivre, ça c'est. Enfin, s'il n'y avait pas les conservatoires et si vous n'aviez pas de travail, enfin, je parle pour la plupart des musiciens que je connais. Hein, et je remarque que vivre vraiment de la musique, c'est quasi impossible, quoi. Il y a des musiciens très talentueux qui ils sont obligés de travailler. La moitié du temps, et bon, ils sont démotivés aussi parce qu'il y a plein de talents perdus dans le monde. Enfin, je trouve que en fait, ça devrait évoluer, on devrait avoir une ouverture pour l'art. Le monde devrait vraiment évoluer à ce niveau-là, ouais. Sinon, c'est la catastrophe. On court vers la catastrophe, quoi.
Que Dieu vous entende, ça ouais. Existe.
Oui, mais non, mais c'est vraiment important de prendre conscience qu'on est. Oui.
Petite pause. Ouais. Est-ce qu'on s'en tiendrait pas plutôt
Ouais, mais c'est rien, ce serait pour nous.
Ouais, ouais.